notre partage et je vous invite à prier. Oui Seigneur, nous mettons à tes pieds, nous te prions de nous guider dans ta parole, de nous montrer, de nous avertir Seigneur, nous voulons être attentifs à ta voix et ouvrir notre cœur à tout ce que tu veux encore nous dire et nous rappeler. Nous voulons te remercier parce que ta parole est la vérité, elle est inspirée de toi et l'Esprit nous conduit vers elle et nous explique aussi ce que nous pouvons et devons comprendre au jour d'aujourd'hui. Oui, que ton nom soit béni en Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je rappelle ce que nous avons dit déjà depuis ce week-end, hier après-midi. Nous avons parlé de ce rêve de Nebuchadnezzar, cette statue qui montrait toute la suite chronologique, prophétique sur les nations jusqu'à l'apparition du royaume de Dieu. Ce matin, nous nous sommes arrêtés sur cette espérance que nous avons en Christ, en ses promesses, qui devient réellement pour nous une force, mais faut-il encore, je l'ai dit ce matin, persévérer. Donc c'est un acte volontaire que nous devons avoir, ça ne viendra pas tout seul. Dieu nous aide, mais voilà, il faut qu'on prenne la décision de vouloir persévérer. Voilà, j'ai rappelé quelques points d'encouragement aussi pour nous. Donc cette troisième étude s'intitule donc « Quand le monde devient connecté ». Donc là encore, je me remets sur le registre de l'examen de texte et de l'actualité de notre monde, en toute simplicité, humilité. Ce n'est pas de la fausse humilité, hein, c'est vraiment, pour moi c'est très important parce que ce sont des thématiques que je travaille depuis pas mal d'années, mais qui ont besoin d'être, entendues et aussi surveillées par le peuple de Dieu. Hein, voilà, soyez des Béréens qui examinent et qui sachez dire aussi les choses s'il faut les dire. Mais voilà, c'est cet examen que j'essaie de faire régulièrement pour avancer et selon ce que Dieu veut donner. Voilà, je suis dans cet esprit-là en tout cas. Donc nous allons lire un texte tiré du chapitre 18 de l'Apocalypse. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. » Que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamone, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront « Malheur, malheur, la grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, Les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, « Quelle ville était semblable à la grande ville ?» Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. » Voilà un texte qui nous amène vers un temps que nous attendons. Si on peut prendre une image, je prendrai l'image d'un sablier, où dans le sablier, non pas un sablier de petits grains de sable identiques, égaux, mais un sablier où il y a des pierres et des cailloux de différentes tailles, qui représentent des kairos de Dieu, c'est-à-dire des événements que Dieu accomplit en son temps. Il y a des kairos qui sont accomplis, des événements qui sont réalisés, qui sont en bas du sablier. Et il y a des événements qui ne le sont pas encore. Et celui-ci, bien sûr, n'est pas encore là, mais peut-être pointe-t-il. Peut-on essayer de voir si à quoi cela peut correspondre au jour d'aujourd'hui. C'est cet examen, justement, que je voudrais faire avec vous, par la grâce de Dieu. Donc Jean fait la description d'une ville qu'il nomme Babylone, et cette expression ou ce nom propre apparaît déjà dans l'Ancienne Alliance à deux reprises. La première mention de Babylone, mais dans le même sens étymologique, c'est la ville de Babel ou la tour de Babel. Cette construction célèbre qui est la représentation, on peut dire, de l'orgueil de l'homme, dès le départ. Il est dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots ». C'est important de rappeler, de mettre en avant le fait qu'ils soient unis à travers une seule langue. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y installèrent et ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, voici qui forment un seul peuple et tous une même langue. Et voici ce qu'ils ont entrepris. Vous voyez encore cette unité, uniformité qui est rappelée par Dieu lui-même, hein, cette constatation des hommes. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent pas mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla ou mit la confusion dans le langage, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. C'est l'ordre qu'avait d'ailleurs donné l'Éternel à Noé lorsqu'il est sorti de l'arche avec sa famille, dispersez-vous sur la surface de la terre. Et en fait, on voit que rapidement, c'est pas du tout ce qu'ils font. Ils se rassemblent, ils se concentrent. Et la concentration, bien évidemment, favorise le partage de ce qui est bon, mais aussi de ce qui est mauvais. Pourquoi mettons en quarantaine quand nous sommes atteints du virus pour ne pas contaminer? Donc plus on est éloigné, moins on contamine et moins on est contaminé. Dans l'idée de la dispersion spirituellement parlant, on peut dire, cela signifie, mais voilà, vous serez moins vite contaminé par l'apostasie et l'incrédulité si vous êtes éloignés les uns les autres. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Parce que cette concentration dans cette ville et cette tour qui est faite montre bien cette puissance de l'homme qui, uni, se sent fort, se sent invulnérable, se monte dans un orgueil démesuré, monter au ciel, de toucher le ciel, à cette idée de, quelque part, d'être Dieu, de ressembler à Dieu, de prendre la place de Dieu. C'est tout ce que Satan a voulu faire et veut continuer à faire, hein. Vous serez, disait-il à Ève et Adam, vous serez comme Dieu. Hein, c'est vraiment ce que l'ennemi cherche à pousser l'homme, en tout cas aujourd'hui encore. Donc nous avons derrière la tour de Babel cette concentration qui est importante à retenir, malgré cet ordre de dispersion. Dieu réagit, descendons, confondons leur langage, mettons-nous en action pour éviter justement qu'ils soient encore plus proches et que cet orgueil devienne de plus en plus démesuré, si je puis dire les choses ainsi. Ce qui caractérisait donc Babel, c'était l'unité, un seul peuple, une même langue. Voilà, ça c'est. Je ne vais pas m'y arrêter plus. C'est juste pour montrer un point particulier, justement par rapport à ce, et ce point va se retrouver en fait. Vous allez voir de quelle manière dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. La deuxième mention de Babylone dans le sens même sens que l'Apocalypse, c'est bien évidemment la ville de Babylone, celle du roi Nebuchadnezzar en particulier. Qui a été une ville très très grande pour l'époque, importante, imprenable apparemment, mais les Mèdes et les Perses l'ont fait tomber. Le haut de la statue, la tête d'or, c'est Babylone, c'est Nebuchadnezzar derrière sa ville Babylone. Donc on a le même sens étymologique que Babel. Cette ville était une puissance économique de l'époque très importante, militaire bien évidemment aussi par l'armée babylonienne qui faisait peur à tout le monde. Donc c'était une énorme agglomération en ce temps-là où il régnait en son sein, on peut dire, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, c'était le peuple païen dont Dieu se sert justement pour démarrer ce compte à rebours chronologique du temps des nations jusqu'à la fin de ce monde. Et il s'est aussi servi de Nebuchadnezzar pour chasser Israël, le royaume du sud, de leur pays, pour les amener justement dans Babylone, cette ville. Un texte nous dit ceci, « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croyez pas si on l'a racontée, prophète Habacuc. Je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. » Ses chevaux sont plus rapides, vous voyez, on voit cet orgueil encore là. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'élancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et ils assemblent des prisonniers comme du sable. Ils se moquent des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redoutable, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Donc on a derrière la ville de Babylone cette description à nouveau d'un orgueil à travers ce peuple qui fait fi de Dieu, hein, qui n'a que cet orgueil humain, on pourrait dire aujourd'hui humaniste, hein, Dieu on n'en veut plus, Dieu on ne le veut pas, en tout cas on voit là une puissance quand même derrière diabolique qui le fait vivre. On peut dire qu'en quelques années d'ailleurs, Nebuchadnezzar a étendu son pouvoir sur tout le Proche-Orient, le croissant fertile, etc., C'était un conquérant impressionnant, mais aussi un grand bâtisseur, d'où l'importance de la ville de cette époque. D'ailleurs, Saddam Hussein se prenait peut-être un peu pour lui. Il a essayé, avant d'être envahi et de mourir, il avait commencé à rebâtir Babylone. Et en particulier, il voulait redonner la splendeur des fameux jardins suspendus de Babylone, qui étaient, dit-on, une des sept merveilles de l'époque. Et donc, bien sûr, nous avons la Babylone d'Apocalypse 18, qui porte le même nom, même sens étymologique en tout cas. Et Jean, dans la description de cette ville en Apocalypse 18, fait ressortir deux dominantes, me semble-t-il, qui vont s'imbriquer diaboliquement l'une dans l'autre. Ce sont la débauche et la cupidité. Alors, je vérifie que je sois dans mon timing. Ça marche plus. Bon. Ça marche plus. Tu l'as toi en main ou pas? Non.
Il y a eu un retard à l'affichage du verset tout à l'heure.
Ah. Ah bon? Bon, écoutez, j'espère que ça va suivre. Hein. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui vient. Non, c'est allumé. Si je reviens en arrière, j'ai rien. Si je vais en avant, j'ai rien non plus. Bon. Est-ce qu'il y a... Ouais. Désolé. On fait une pause, c'est la pause chocolat glacé déjà. Prends la main. Voilà, ça va mieux. Allez, là. Ah oui, donc d'accord. Ok, je vois. Voilà, je préfère... Enfin, ça vous aidera quand même dans un petit moment, parce qu'il y a des choses qui vont être un peu plus visuelles. Ça sera intéressant plus... voilà. Pardon, merci. Ah ben on remet le... C'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Donc je disais que la ville, la description qu'en fait Jean semble faire ressortir ces deux dominantes, la débauche et la cupidité, dominante que l'apôtre Paul a mise en avant lors de sa description des temps de la fin, lorsqu'il nous dit en Éphésiens, voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On a ces deux termes qui sont ensemble chez Paul ici, mais le texte auquel je faisais plus référence par rapport au temps de la fin, c'est pas celui-là, puisqu'il ne parle pas dans ce contexte-là, mais il joint, vous voyez, les deux termes, où dans la deuxième à Timothée au chapitre 3, il nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, cupidité, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irreligieux, insensible, calomniateur, déloyaux, intempérant, cruel, traître, emporté, aimant le plaisir plus que Dieu, etc. » Voilà. Donc on a cette description de Jean qui montre que cette ville comment dire, a en son sein ce que Paul lui-même va décrire comme étant des signes de la fin des temps. Au chapitre 17 de l'Apocalypse, il voit une femme, sur son front est écrit un nom, un mystère, et c'est là qu'il voit ce nom Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et il est précisé au chapitre 18, verset 3, texte que nous avons lu, « Les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, les rois se livrent à sa débauche, les marchands s'enrichissent. » Donc Babylone est constituée, ou en tout cas est donnée comme une prostituée. Cette prostitution dont il est question est une prostitution non pas spirituelle, mais plutôt matérielle, où on fait feu de tout bois, l'argent n'a pas d'odeur, on fait un peu ce que l'on a envie. Alors que Samarie et Jérusalem, pour l'Ancienne Alliance en particulier, les prophètes ont parfois dit qu'elles étaient prostituées, accusées par Dieu de prostituées, mais c'était une prostitution spirituelle, parce qu'ils se détournaient de l'Éternel, et Dieu les rappelle un petit peu à l'ordre, en leur disant, voilà, vous vous prostituez en fait, vous allez vers d'autres dieux, mais pas, mais vous m'oubliez moi. Il y avait deux autres villes qui ont été qualifiées de prostituées païennes, c'était Tyr et Ninive. Et donc avec Babylone, ces trois villes étaient trois villes qui concentraient quelque part en leur temps la puissance de l'époque, une puissance en tout cas certaine, qui était basée sur l'orgueil en fait et sur le matérialisme, sur le commerce en particulier, mais je vais y revenir. Quant au vin dont parle Jean dans la description de l'Apocalypse, cela bien sûr fait allusion à l'ivresse. Quelqu'un qui a trop bu et quelqu'un qui n'est plus maître de lui-même, de ses pensées, mais aussi de ses actes et de ses gestes. Il y a donc ici, me semble-t-il, l'idée d'une ivresse spirituelle qui fait que quelque chose se passe, qui fait que les peuples, et dans Babylone, ne sont plus maîtres quelque part de leurs pensées et de leurs actes, mais ils sont sous le contrôle d'une puissance qui régit et sous laquelle ils se sont placés, volontairement ou involontairement en tout cas, si ce n'est pas vers Dieu, c'est vers autre chose que les hommes vont se diriger. Il n'y a pas 36 solutions, c'est Dieu ou l'ennemi de Dieu. Et l'ennemi de Dieu, c'est Satan lui-même, dont nous savons être, et c'est Jésus qui l'a dit, le prince dans ce monde, mais il faut qu'il en soit ainsi pour que ce monde soit mûr pour le jugement final qui vient. Il semble donc, d'après Jean, que la société des temps de la fin, décrite sous le nom de Babylone, est vue par Jean, comme étant principalement sous le contrôle et la domination de Mammon, puisque sa chute provoque, dit le texte, un désastre économique apparemment irréversible à cause des richesses qui sont détruites. Et à plusieurs reprises dans le texte d'Apocalypse 18, nous avons lu « Malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. » Donc l'expression, bien sûr, « malheur, malheur », laisse entendre que c'est quelque chose qui ne reviendra pas, ou en tout cas qui laisse entendre une désolation, oui, quasiment irréversible. Il apparaît donc dans ce chapitre 18 que Babylone pourrait bien avoir une importance et une influence économique extrêmement forte. L'allusion aux marchands, citée plusieurs fois, démontre l'importance de ce commerce, et j'insiste sur cette expression des marchands sur laquelle je m'arrêterai dans un moment. Il y a plus de 20 ans, je l'ai peut-être partagé cela, je ne sais plus, je lisais la parole régulièrement, j'étais sur ce livre de l'Apocalypse, et j'ai vraiment été frappé, comme si mes yeux s'arrêtaient sur ce terme de marchand. quand je dis 20 ans, il y a 25 ans, hein, c'est même plus que ça. Et j'ai quelque chose qui m'est venu à l'esprit en relation avec ce qui se passait dans l'actualité. Et ça m'a, sur le coup, j'étais un peu ébahi, un peu étonné. Je me dis, Seigneur, oui, Seigneur, oui, c'est bizarre, mais en tout cas, il y a une connexion qui se fait. Et ce que je compris, ce que je comprenais à ce moment, à ce jour-là, je l'ai gardé pendant plus de 5 ans sans en parler. Je relisais, réfléchissais, enfin pas tous les jours quand même, hein, j'arrivais à dormir, je vous rassure. Hein. Mais ça revenait vraiment dans mon esprit. Et j'osais pas en parler. Je me disais, va te prendre pour un fou, pour un illuminé, etc. Bon. Et puis petit à petit, au bout de 5 ans, j'ai commencé un peu à en partager, à faire une prédication, un petit enseignement très très discret, voilà. Et les retours, étaient pas négatifs. Et on me disait, oui, il y a des choses intéressantes, il faut creuser. Donc j'ai creusé, et ça fait 20 ans, 25 ans que je creuse. Je suis pas arrivé en Chine encore, en force de creuser, mais il se passe des choses. Vous allez voir que ce que j'aimerais vous partager, pour ma part, me satisfait, mais voilà, c'est un partage. Alors, on va s'arrêter dans l'expression du chapitre 18, dans le chapitre 18, aux expressions qui m'ont apparu, pour ma part en tout cas, mettre en avant, des expressions clés. Il y a la grande ville, il y a l'expression en une seule heure, il y a les marchands, tous ceux qui naviguent, tous ceux qui se sont enrichis, les pilotes, ceux qui naviguent, ceux qui exploitent la mer. Je n'ai pas donné dans le bon ordre, mais voilà, vous avez suivi. Alors, effectivement, si l'on me demandait un titre particulier à donner à ce chapitre 18 de l'Apocalypse, eh bien, c'est le titre que je lui donnerais, www.apocalypse18.com. Et il y a 25 ans, lorsque j'ai fait ce lien dans mon esprit, en lisant ce texte, et tout d'un coup, il y a cet Internet qui balbutie un petit peu, malgré tout, enfin, ça, on les avait pas comme aujourd'hui, et m'est venu à l'esprit, et depuis, je réfléchis un petit peu dans cette orientation-là, et j'ai chaque fois des convictions qui deviennent de plus en plus profondes par rapport à ce texte. Donc, je fais vraiment une allusion à ce qui, aujourd'hui, devient pour l'humanité un incontournable Internet. Je voudrais rappeler quand même, au passage, la fulgurante évolution des ordinateurs. Dans les années 70-80, l'équivalent de nos ordinateurs d'aujourd'hui, en termes de capacité de stockage et de rapidité d'exécution, nécessitait un local aménagé et une climatisation appropriée qui coûtait une fortune. Aucun domaine, et je cite quelqu'un, aucun domaine n'a connu une telle évolution au niveau de la puissance et de la baisse des prix. Si, et j'ai trouvé cet exemple pertinent, si l'automobile avait connu un développement similaire, une voiture coûterait quelques centaines d'euros seulement, et sa vitesse serait supérieure à 5 fois celle du Concorde. Et le plein d'essence, gasoil, effectué avec une burette. Quel rêve, hein, n'est-ce pas? Sauf qu'on n'a pas travaillé pour forcément dans ce sens-là, mais c'est plutôt l'informatique qui a pris un essor exponentiel. Donc nous nous arrêtons sur ces termes clés en essayant de, avec cette orientation, de voir qu'est-ce qu'on peut en sortir et est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là. La première expression, donc la grande ville, on peut penser à une société, une organisation humaine. Pour nous, la ville, c'est une concentration d'individus dans un même lieu. Il peut être élargi, mais c'est une concentration qui est délimitée, telle est la définition, on peut dire, de la ville. Donc des hommes qui se réunissent ensemble, et là nous retrouvons ce qui se passait au temps de la tour de Babel. Ils ne voulaient pas s'élargir, en tout cas se disperser, ils souhaitaient toujours être ensemble, donc être dans un même lieu, travailler dans un même lieu, vivre dans un même lieu, tel est le but de la ville. La grande ville, C'est donc une concentration humaine, mais peut-être pas forcément comme on l'entend et comme je suis en train de le donner en définition qui est celle qu'on a toujours connue, puisque par Internet, l'espace géographique n'existe plus. L'expression « la toile d'araignée » en est une preuve. Je vais pouvoir communiquer avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la planète, tout comme s'il se trouvait avec moi dans la même pièce. Et la technologie prend de plus en plus d'ampleur à ce sujet. On l'a vu et on le voit encore aujourd'hui avec les Zooms et avec le Covid qui a mis ce rapprochement dont on ne soupçonnait peut-être pas forcément trop, parce que ma foi on n'en avait pas besoin. Mais maintenant qu'on en a besoin et qu'on nous le met sous le nez, on se rend compte qu'on peut être ensemble, mais pas dans un même lieu, comme on le voit tout le temps, mais ensemble, très proche, parler, discuter, etc., etc. L'humanité, c'est la question qu'on peut se poser, a-t-elle recréé Babel, mais d'une autre manière, une concentration d'individus autour de ce fabuleux Internet, qui quand même, il faut le dire, est extraordinaire. Et à nouveau, parce que les hommes sont unis, certes d'une autre manière que la langue, bien que sur Internet il y ait un langage qui lui est propre et que tous les peuples finissent par connaître, ils croient encore une fois faire tout sans l'aide de Dieu. On a encore cet orgueil qui apparaît derrière ce fabuleux Internet. L'orgueil et la démesure sont toujours bel et bien présents, mais le cœur de l'homme ne change pas. Il a beau changer de technique, il a beau évoluer dans sa technique, le cœur reste le même, nous le savons. Dans le chapitre 17, il fait mention d'une femme, je l'ai déjà signalé, sur le front était écrit « Babylone, la mère des impudicités et des abominations », mais quelques versets plus haut, il est écrit, Apocalypse 17, verset 1, « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur des grandes eaux. » Et Jean s'interroge, que sont ces eaux? Et Jésus répond, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Donc il y a en fait une concentration de peuples, de nations et de langues. Et c'est sur cela que la femme est assise, avec ce nom Babylone, régnant quelque part en maître. Elle exerce donc une domination universelle, basée, semble-t-il, sur cette union, cette grande ville, qui est le monde, on parlera dans un moment de mondialisation, qui est le monde, mais qui est basée sur ce qui aujourd'hui est un incontournable dans et à travers Internet, et c'est la deuxième expression, à savoir les marchands. Car qu'est-ce qui domine sur Internet aujourd'hui? C'est le commerce. Nos discussions par Internet, via les réseaux sociaux, ce n'est rien du tout par rapport à ce qui se passe derrière le commerce. Ce n'est quasiment que du commerce. D'ailleurs, on le voit, chaque fois qu'on clique sur un achat ou qu'on fait un achat, on reçoit 200 publicités qui arrivent en même temps, etc., etc. Le but, c'est le commerce. Donc, c'est le business. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on achète et on vend de tout. La description que fait Jean nous le dit. Personne n'achète des cargaisons d'or, et voici ce qu'il dit, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des perles, de fin lin, n'est-ce pas, de soie, d'écarlate, de senteur, d'objets en ivoire, d'objets très précieux, en airain, en fer, en marbre, on a lu cela, n'est-ce pas, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, on fait le blé, le pain, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, on peut extrapoler, voitures, d'avions. On vend de tout, de corps et d'âme d'homme aussi. On trouve du superflu au nécessaire. On trouve du plus rare alors au plus commun. Vous voulez acheter un clou, vous cliquez Internet, vous achetez un clou. Vous voulez acheter un avion, vous cliquez sur Internet, vous achetez un avion. Jusqu'à cette vente de corps et d'âme d'homme, comment ne pas penser justement à ce marché terrible, satanique, diabolique, de la pédophilie, de l'occultisme, de la prostitution, de la pornographie, que l'on voit sur Internet fleurir depuis des années et qui prend des proportions incroyables. On vend des âmes d'hommes, on vend des corps d'hommes. Et tout cet appareil fabuleux, la grande ville, que le génie humain a créé, devient le mécanisme infernal qui, non content de jongler avec les choses, vilipende les vies et mutile les âmes. Et là, nous avons là une description de ce que Satan veut faire et ce que Satan fait. À la fin des années 40, et j'ai cité déjà hier après-midi le théologien René Pache, qui dans son livre « Le retour de Jésus » a développé ce sujet sur les signes des temps, mais c'était écrit en 48, donc c'était une époque sortir de la guerre particulière aussi, mais il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui, hein, bien évidemment. Et j'ai été voir un petit peu comment il comprenait, qu'est-ce qu'il a écrit sur la description de cette ville de Babylone. Et en parlant, et en lisant justement cela, j'ai pas été surpris, mais quelque part il le dit à sa manière, et voici ce qu'il dit. Cette longue liste donne une image étonnante, et peut-être était-il effectivement étonné, du commerce mondial. Il trafique des objets venant de toutes les parties du monde et développe des besoins toujours plus raffinés pour créer sans cesse de nouveaux débouchés. Peu importe la marchandise, et on a vu combien elle était importante, pourvu qu'elle trouve acquéreur et qu'elle rapporte. On est vraiment dans le business is business. On est dans le, j'y reviendrai, dans le dieu mammon. La mondialisation telle que nous la voyons à travers Internet n'était pas, bien sûr, inimaginable au temps de ce théologien. Ce qui ne veut pas dire que demain il faudra encore affiner un petit peu nos recherches, bien sûr, et nos examens. Mais Internet semble bien, à mon idée, à mon sens, correspondre à la description de cette grande ville nommée Babylone. Mais il n'y a pas que cela. Il y a la troisième expression. Ceux qui se sont enrichis, entre autres. Par Internet, bien évidemment, beaucoup d'emplois, d'entreprises ont été créés, des fortunes ont été gagnées rapidement par des personnes. Bon, certains en ont perdu aussi rapidement, il faut quand même pas l'oublier au passage. Facebook, par exemple, il y a 2 ans que j'avais lu ça, a généré plus de 2 milliards de chiffres d'affaires. Croissance et création d'emplois exponentiels, et pas que lui, bien évidemment. Quand on pense aux GAFA en particulier, hein, ils ont tous les quatre été aussi gagnés par cela et ont fait de l'argent à tout va. Nous comprenons pourquoi, lorsque ce magnifique édifice s'écroule, sa chute provoque un véritable désastre. Un désastre économique et financier, mais qui est planétaire parce que cela touche la planète. Si des hommes se sont jetés par les fenêtres quand l'économie s'est effondrée lors de la récession de 1929, qu'en sera-t-il de notre génération gâtée, bien moins aguerrie, lorsque le système mondial actuel se mettra à vaciller et à s'effondrer? Et l'on en a vu quelques balbutiements lors de certaines crises économiques, comme en 2008, une des dernières en tout cas, qui commençait un petit peu à affoler les banques, qui sont la puissance, bien évidemment, de ce monde. Voilà. Mais je fais pas de la politique, hein. C'est un constat que je mets en avant. Je suis pas un féru de dans ce sujet-là, de tout ce qui est business et banque. C'est pas, je suis pas à l'aise avec ça. Mais bon, le peu que je peux entendre m'interpelle quand même. Et on montre qu'on est bien sur une base très instable, de plus en plus instable, bien sûr. Eh bien, elle criera, cette génération qui sera peut-être face à ce déclin rapide, on va le voir, malheur, malheur. C'est tout ce qui est fondé sur l'illusion ou les demi-vérités, l'orgueil, la cupidité, la crainte qui finira par entrer en collision avec la réalité qui se sera abattue sur ce monde ivre, je l'ai rappelé, ivre de la puissance de son prince et qui la tient aujourd'hui par l'économie. Dans la description des derniers jours que fait l'apôtre Paul, je l'ai lu dans 2 Timothée 3, il mentionne la corruption de ces derniers jours, puisqu'il fait mention de l'amour de l'argent et des plaisirs qui vont de pair. Il n'est pas besoin d'être prophète pour voir l'impact aujourd'hui et le pouvoir de l'argent dans ce monde. Et bien sûr, ce n'est pas d'hier, l'argent a toujours été ce qui fait tourner le monde, on est d'accord. Mais un certain Jean-Marie Rouard de l'Académie française, qui de temps en temps est interviewé pour des affaires historiques, a dit ceci, la mondialisation Internet ont donné à l'argent un pouvoir sans frein tel qu'il n'en a jamais eu dans l'histoire du monde. C'est pas la Bible qui dit cela, mais c'est quelqu'un qui a peut-être réfléchi aussi, mieux que moi, sur ce problème de l'argent en particulier. Donc il y a eu une ouverture, bien évidemment, et une facilité à travers Internet pour que l'argent devienne encore plus important et pernicieux. Alors nous voyons combien notre monde est lié à cette puissance diabolique que j'ai nommée déjà Mammon, qui littéralement signifie richesse, hein, ou dieu du matérialisme, on pourrait dire plusieurs termes aussi, et qui s'oppose de front, en fait, à Dieu lui-même. Et c'est Jésus qui le dit. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cette divinité, quelque part, c'est le Seigneur Jésus qui l'a mis en avant. Et il n'en a pas parlé de beaucoup, hein, de divinité, ou en tout cas de puissance. Il a parlé de Mammon. Et à deux reprises dans l'Évangile, il va le dire. On ne peut pas mélanger les choses. Soit vous servez Dieu, soit vous servez Mammon. Mais c'est comme le fer et l'argile lorsque cela se mélange. Et si vous les mélangez, alors vous êtes dans une situation catastrophique. Vous allez vous écrouler. Mammon est avant tout, n'oublions pas, une puissance démoniaque qui cherche à influencer, à contrôler la vie des hommes pour qu'ils aiment l'argent et lui fasse confiance. C'est pour ça que j'ai un peu insisté ce matin sur le fait que c'est en Christ et en Christ seul que nous avons notre espérance et que nous plaçons notre foi. La société des temps de la fin, décrite donc sous le nom de Babylone, est vue par Jean comme étant principalement sous le contrôle et la domination de Mammon, puisque nous l'avons lu, la chute de cette grande ville provoque un désastre économique mondial. Oui, malheur, malheur à nouveau, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Et cela m'amène à la quatrième expression, puisqu'il est parlé dans le malheur de ceux qui ont des navires sur la mer. Et là, c'est une expression qui m'a frappé, c'est sur cette expression qui suit, pilote, ceux qui naviguent et ceux qui exploitent la mer, que j'ai fait tilt il y a 25 ans. C'est cette phrase-là qui m'a interpellé en particulier. Pourquoi? Eh bien, parce que ce vocabulaire se trouve mot pour mot sur Internet, considéré comme une immense étendue d'eau sur laquelle nous surfons. J'exagère pas en disant cela, n'est-ce pas? Et nous surfons à l'aide de principaux navigateurs, appelés ainsi sur Internet, qui sont tels Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome, selon ce que vous avez comme logiciel, etc. Ce qui veut dire que vous et moi, nous entrons dans cette catégorie des marchands chaque fois que nous cliquons sur notre souris. Nous sommes des marchands en puissance. Lorsqu'il est question de marchands dans Apocalypse 18, ce ne sont pas simplement ceux qui font de la marchandise et qui vendent, etc. C'est aller, c'est entrer dans cette ville qui a pour propre la marchandise, la consommation, l'argent à tout va. Car finalement, quand je lisais cela il y a 25 ans et que je pensais aux marchands, je me disais littéralement parlant, mais Seigneur, tu condamnes les marchands, mais il y a les juges, il y a les médecins, il y a des corps de métier, il n'y a pas que les marchands sur la terre, n'est-ce pas? Eh bien, on peut dire que presque littéralement, c'est ce qu'il faut comprendre, à savoir que le marchand, il est marchand en puissance du moment qu'il entre par Internet dans la ville, parce qu'il est prêt à consommer. Donc, tous les hommes sont concernés, qui qu'ils soient. Un certain Alain Badiou, un philosophe, mathématicien et romancier, a dit ceci, « La marchandise étant le moteur principal de la société, chacun est convoqué devant le marché comme sujet consommateur, et nous sommes des sujets consommateurs. Si nous, même si nous ne consommons pas, mais en puissance, nous le sommes. » Internet, donc, a ouvert la porte du commerce mondial. Et pour un projet de l'ampleur de la bête, décrit dans l'Apocalypse chapitre 13, savoir que toute la terre, ou que toute la terre ne puisse un jour ni acheter, ni vendre, si elle n'a pas sa marque, montre bien l'ampleur et la puissance économique que la bête va, sur laquelle va, la bête va s'appuyer. Car cette fameuse marque aura pour but de ne pas acheter ou d'acheter et de vendre. On est en même temps encore dans le système du commerce. Et pour cela, il faut une toile d'araignée. Il faut des liens partout. Il faut des connexions. Et elles sont placées, ces connexions. Elles y sont aujourd'hui. On peut se déplacer sur la toile, où que l'on veut, sur la planète entière. Internet remplit parfaitement cette fonction aujourd'hui. D'autant que Jean mentionne donc clairement cette fameuse marque de la bête, sous ce nombre de 666, qui sera appliqué, dit le texte, sur la main droite ou sur le front. Ce chiffre est son nombre que l'on voit apparaître dans le domaine informatique. En effet, le 6 correspond au W en hébreu de son alphabet. Et il apparaît, en fait, à toutes les adresses qui entrent sur le net, à travers le www. Pourquoi ces trois lettres, www? Eh bien, pour repérer les serveurs concernant les fameuses pages web. Les adresses des serveurs commencent par cela, qui est en fait le diminutif de World Wide Web, qui n'est pas traduisible quelque part en français, mais qui a été traduit par Internet. Aux États-Unis, on parle de World Wide Web, mais chez nous, enfin, Internet bien sûr, mais c'est Internet en fait, avec les trois W qui représentent, alors vous avez le World, le monde, hein, et le rassemblement, encore une fois, cette Babel qui est unie sous une entité qui est non pas une grande tour, mais qui est plus qu'une grande tour qui touchait le ciel, c'est une toile d'araignée qui enveloppe toute la terre. Il est évident que ce chiffre, en tant que nombre, n'a rien de plus que les autres, hein, mais il recevra sa vraie valeur, une valeur diabolique, que lorsque l'Antichrist entrera en scène et l'utilisera à ses fins. Et nous comprenons que si ce business doit passer par la toile d'araignée Internet, eh bien, la clé, il tient en fait le monde entre ses mains quelque part, et il peut imposer, et il imposera, dit le texte, au peuple, aux nations, cette fameuse marque pour pouvoir acheter et vendre. Ce qui impliquera que ceux qui ne prendront pas cette marque, et le texte dit que les enfants de Dieu ne devront pas la prendre, seront exclus de cette société. Ils ne pourront pas acheter, ils ne pourront pas vendre. Ce qui veut dire qu'il y aura un temps encore qui restera et qui sera compliqué. Vous savez, quand les disciples ont démarré dans l'évangélisation, quand Jésus est remonté au ciel, que nous dit les Actes des Apôtres, chapitre 2, puis 3 et 4, ils se mettaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et ils partageaient ensemble. Pourquoi ? Mais parce qu'il y avait des besoins. Et ces besoins avaient été créés, malheureusement, par le fait que beaucoup de nouveaux convertis perdaient leur travail, justement, à cause de leur foi. Ils étaient éloignés de leur propre corporation, parce qu'ils témoignaient de Christ, et on les mettait de côté. Ils n'avaient plus de subsistance, il y avait aussi les veuves qu'il fallait aider. Et ils ont décidé, spontanément, de mettre en commun ce qu'ils pouvaient, pour aider, justement, ceux qui perdaient les choses, et ceux qui avaient besoin. Est-ce que, et je me pose la question, la boucle ne serait pas bouclée hein, au moment où on va revenir quelque part au point de départ? Ne faudra-t-il pas revenir à ce temps où nous devrons, peut-être, parce que face à cette situation que nous ne pourrons pas accepter, eh bien, nous mettre ensemble plus et pouvoir partager avant que la délivrance soit totale et définitive? Le passeport vaccinal prépare-t-il psychologiquement, petit à petit, les mentalités à accepter pour demain plus facilement la marque sur la main droite? Je m'interroge. N'entendons-nous pas ou n'entendrons-nous pas demain dire « Mais rappelez-vous que sans ce passeport, vous ne pouviez ni circuler, ne pouviez rien faire, n'est-ce pas ? Et vous l'avez bien pris ce passeport, alors maintenant on vous propose une marque sur la main, mais prenez-la, de toute façon c'est pas grave, parce que vous ne pourrez pas acheter ni vendre. Comme, rappelez-vous, oh, vous vous êtes déplacé grâce au passeport. » Et ainsi amener le peuple à accepter cette situation comme étant une situation tellement logique, tellement efficace. Je pense que la pandémie de la Covid-19 et les confinements ont bien montré combien Internet était devenu indispensable pour quasiment tout. C'est assez incroyable qu'il a fallu cette pandémie pour se rendre compte du potentiel que nous pouvons avoir sur Internet en particulier. Et ce que nous faisons actuellement, et ceux qui sont derrière leur ordinateur, ils peuvent être là, mais bon, à nous écouter, on ne le faisait pas avant cela, on n'avait pas besoin, je suis d'accord. Mais voilà, c'est quand même incroyable. Je ne suis pas en train, comprenez-moi bien, de dire qu'Internet c'est le diable. Non, Internet, pour moi, va être utilisé par le diable pour pouvoir prendre autorité sur les nations. Encore, je ne sais pas trop comment, mais voilà, j'ai l'impression que la toile se tend, c'est le cas de dire. Hein. Parce que finalement, n'est-ce pas justement, mais juste en temps et en heure, n'est-ce pas formidable de pouvoir parler à vous qui êtes là derrière votre écran hein, et vous encourager. N'est-ce pas incroyable de pouvoir envoyer un mail à un pasteur en Chine dont on sait qu'il est persécuté ou que son église est persécutée pour l'encourager? Il y a 50 ans en arrière, on écrirait une lettre et elle lui parviendrait 3 mois ou 4 mois plus tard, peut-être quand tout serait fini ou peut-être qu'il serait mort. Donc profitons, oui, de la situation pour la gloire de notre Dieu, mais attention, il y a des clics et il y a des portes que nous ne devons pas ouvrir. Windows, c'est la fenêtre dans lequel nous ne pouvons pas passer. D'ailleurs, ce n'est pas une porte, c'est une fenêtre. Hein. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie est un brigand et un voleur, a dit Jésus. Alors, je ne sais pas si on peut faire une allusion avec Windows, la fenêtre, parce que quand le voleur ne peut pas passer par la porte, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de passer par la fenêtre. Hein. Bon, je vous le mets un petit peu en réflexion. C'est déjà donc une leçon que nous devons retenir pour nous maintenir en éveil, cela. Des milliards d'individus, que ce soit par le télétravail, les rencontres via les réseaux sociaux, les achats, etc., entrent dans cette grande ville. Nous y sommes aussi, il faut le dire, d'une autre façon, mais posent leurs valises parce qu'il n'existe rien d'autre qui lui soit comparable et je ne suis pas convaincu qu'il existe autre chose, mais ça va prendre encore des proportions incroyables. J'ai lu encore un article hier après-midi d'un copain qui m'a envoyé ça, là, sur la bio... comment ça s'appelle ? La bioculture, pas la bioculture, Ça ne vient pas. Alors attention, donc, je vous invite à noter maintenant la description que fait l'apôtre Paul à Timothée dans sa deuxième lettre. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes, alors c'est la description que j'ai déjà écrite, hein, mais je serai attentif sur cela. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Certains d'entre eux, poursuit Paul, s'introduisent dans les maisons, prennent dans leur filet des femmes crédules, littéralement des femmelettes, hein, on pourrait dire, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ça, c'est une description que fait l'apôtre Paul des derniers jours, sur une particularité, à savoir que les faux docteurs s'introduisent dans les maisons, dira l'apôtre Paul. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Combien sont-ils ces chrétiens mal affermis qui gobent tout ce qu'ils entendent sur Internet et propagent via les réseaux sociaux des bêtises, des mensonges, parce que eux-mêmes ne sont pas affermis, eux-mêmes ne sont pas dans ce que j'ai rappelé ce matin, quoi qu'il arrive, examiner toute chose. Mais l'examen ne se fait pas par l'intelligence humaine, par la connaissance ou la culture. L'examen se fait par la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Et j'examine à travers le filtre de l'Écriture. Alors, avant on disait « tourne ta langue 7 fois avant de parler », moi j'ai envie de dire « fais tourner ta souris 7 fois avant de cliquer pour faire passer le message à ton voisin ». C'est tellement rapide. Mais ça fait tellement des dégâts aussi, n'est-ce pas ? Comme la parole d'ailleurs quand elle est lancée dans un esprit de médisance. Oui, combien sont-elles en même temps, et c'est Paul qui le dit, ces personnes aujourd'hui qui cherchent sincèrement la vérité pour apaiser leur conscience, mais ne sont toujours pas satisfaits, ils cliquent ça et là, ils ouvrent des logiciels, ils ouvrent vers des sites, ils apprennent, dit Paul, beaucoup de choses, mais ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Et là, nous avons une responsabilité. Puisque nous connaissons cette vérité, je ne le dis pas en disant on est les meilleurs que les autres, non, nous la connaissons parce que Dieu nous a fait grâce de la connaître. Donc à nous de pouvoir amener cette vérité là où les gens vont et chercher la vérité. C'est pourquoi bien nos sites même d'église sont importants. Nos rencontres que nous faisons à diffuser sur Internet sont importantes si nous pensons que nous sommes là la vérité et nous le sommes. Nous ne doutons pas un instant si nous sommes centrés sur l'Écriture et l'Écriture seule. Donc vous le comprenez, cette pandémie mondiale a été l'occasion d'ouvrir, à mon sens, un peu plus la boîte de Pandore à toutes les dérives et les séductions que compte le monde du religieux. Et étant confinés chez soi, n'avons-nous pas eu tout le temps nécessaire pour pouvoir aller visiter et aller sur la toile, que ce soit en Chine ou ailleurs, enfin n'importe où, pour chercher, pour trouver, pour prendre le temps peut-être aussi. Quoi qu'il arrive, je le répète, retenez ce qui est bon après l'avoir examiné. Alors, je vais encore aller un petit peu plus loin avant de terminer. Internet est sans nul doute, à mon sens, le fil rouge qui favorise ces échanges mondiaux, je pense que vous l'avez compris, et ceci accentue un peu plus encore cette mondialisation dont on entend parler et qui est une réalité, laquelle nous enlace d'ailleurs cette mondialisation comme une pieuvre. J'ai trouvé il y a quelque temps déjà, mais des citations de personnages qui ont parlé de cela en leur temps. Et j'ai été un peu surpris de lire la citation de Winston Churchill qui, à la fin de la guerre, juste au sortir de la guerre, déclarait « À moins qu'un super gouvernement mondial efficace ne puisse être établi, les espoirs de paix et de progrès humains s'avèrent sombres et incertains. » Sortant de cette victoire des Alliés, on peut dire c'était de l'euphorie quelque part, hein, le nazisme ayant été éradiqué, voilà que Winston Churchill lui trouve que c'est pas gagné encore, en tout cas dans ce domaine-là, et qu'on va pas vers le mieux si l'on ne fait pas quelque chose au niveau mondial. Une autre citation d'Albert Einstein qui a dit « Le désir de paix de l'humanité ne peut se réaliser que par la création d'un gouvernement mondial. » Dans les années 50, je pense, ça a été dit, cette parole. Dans les mêmes années, un certain Henri Spaak, qui était alors secrétaire général de l'OTAN, a dit ceci, « Ce n'est pas un comité de plus que nous voulons, nous n'en avons déjà que trop. Ce que nous désirons, c'est un homme d'une envergure suffisante pour obtenir la soumission de tous et qui parvienne à nous sortir du marasme économique dans lequel nous nous enfonçons. Envoyez-nous un tel homme, qu'il soit Dieu ou diable, nous l'accepterons. » Pour retrouver ces citations sans problème, hein. C'est pas de l'invention. Hein. Voyez cette idée, et encore on est dans le marasme économique, et on était, il y a eu la crise de 1930, etc., les années 50-60, les fameuses années les glorieuses, les 30 glorieuses, etc., il comprenait que le système dans lequel déjà le monde s'engageait allait dans un mur, au niveau économique. Hein. Mais voyons cette interpellation qui est terrible. Il faut qu'il y ait un jour quelqu'un qui fasse le ménage, qui soit capable de soumettre sous son autorité et son autorité seule. Eh bien, la Bible appelle ce personnage l'Antichrist, le faux Messie, qui prendra le contrôle sur les nations et les peuples. Un contrôle facilité, et on le ressent aujourd'hui, par la puissance d'Internet. J'entendais encore la semaine dernière, pour lutter contre le terrorisme et prévenir les meurtres tels qu'on peut les voir, que de nouveaux algorithmes allaient être créés de manière à cibler un peu plus encore les futurs assassins. Le terrorisme, la violence, engendrent l'hypersurveillance, laquelle, à travers Internet, deviendra une arme redoutable entre les mains de l'Antichrist. L'étau se resserre. Et ça, on ne peut pas le nier. Cette violence, d'ailleurs, Jésus en a parlé lorsque, dans l'évangile de Luc, il a fait mention de deux personnages dans les temps de la fin. Il en sera de même comme au temps de Noé et de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, etc. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Hein. Idem pour Lot. Et ces deux personnages ne sont pas pris au hasard par le Seigneur. À la fois pour montrer l'insouciance, certes, de la société, à la fois de Noé et de Lot, mais de la nôtre aujourd'hui, de la fin des temps, qui ne se rend pas compte qu'une épée de Damoclès est sur leur tête, le jugement de Dieu arrive. Mais quand on regarde ce qui se passait au temps de Noé et au temps de Lot, dans la Genèse en particulier, on se rend compte que pour Noé, ce qui a favorisé, ou en tout cas ce qui a fait que Dieu a amené le déluge, c'est parce que la violence et la corruption étaient grandes sur la surface de la terre. Et Dieu a éradiqué ces deux choses à travers les hommes, sauf Noé. Violence et corruption. Aujourd'hui, le monde est mûr parce qu'il est dans la violence et la corruption, peut-être pas de la même manière, mais peut-être plus encore. Quant à Lot, bien évidemment, il s'agissait des deux villes que Dieu voulait éradiquer, Sodome et Gomorre, qui avaient en leur sein des actes immoraux que Dieu n'a plus supportés. Et aujourd'hui, nous avons aussi, dans tous les pays du monde, des lois qui autorisent, qui font que, maintenant, l'immoralité devient quelque chose de banal. Et aux yeux de Dieu, c'est pas possible. Ces deux signes, Lot et Noé, Jésus en a parlé. Aussi le monde est mûr de ce côté-là. Donc cette mondialisation que tous les leaders politiques prônent pourrait très facilement être une rampe de lancement pour l'Antichrist, solidement ancrée sur le socle d'Internet. Il est donc probable que ce personnage, pour accéder au pouvoir suprême, s'efforcera de paraître sympathique au plus grand nombre, probablement élu au suffrage universel, mais il sera animé de mensonges. Pourquoi ? Parce que son maître est le père du mensonge. Et à ce sujet, il n'est peut-être pas inutile de rappeler un précédent dans l'histoire. L'Allemagne des années 20, par exemple, avait imprimé des billets sans contre-valeur, Parce que l'économie vacillait. Et une telle économie basée sur la planche à billets fonctionne certes aussi longtemps qu'on lui fait confiance. Mais très vite, la confiance a été entachée. S'en est suivi d'une période d'hyperinflation en Allemagne, avec des pertes énormes et une population allemande affamée. La suite est connue. C'est l'avènement d'Adolf Hitler, lequel s'est fait attribuer autant de pouvoir qu'il incarnait l'espoir dans cette situation dramatique. Le peuple allemand attendait un sauveur et Hitler a su manipuler les masses. Il a été littéralement adoré par des millions d'individus comme un sujet et comme celui qui allait les aider. N'oublions pas qu'il fut élu démocratiquement et que petit à petit, il a instauré sa dictature et mis le feu sur la terre. Beaucoup ont pensé qu'il était l'Antichrist à ce moment-là. Oh, il en avait toute la description, on pourrait dire. Mais ce n'était pas encore celui qui sera l'Antichrist, bien sûr. Mais on voit comment cela peut se paraître dans une échelle autre, plus grande, plus mondiale, n'est-ce pas ? Avec Internet qui est aux manettes, peut-être. Il y avait dans un article du Christianisme, le dernier qui est sorti, un article intitulé « Le recul des libertés, symptôme d'un virus social ». Un certain Norbert Vallée, un pasteur suisse, a écrit ceci à une interview. « Face au recul des libertés individuelles qu'il observe depuis au moins une décennie et la pandémie pourrait l'accentuer encore, il déplore l'inaction des États-Unis et dit, je cite, « J'ai l'impression que nous sommes dans une situation similaire à celle de son ancêtre, la Société des Nations, avant la Deuxième Guerre mondiale, et cela m'inquiète. » Une Société des Nations qui, à ce moment-là, n'avait rien fait de particulier pour aider particulièrement ce peuple allemand et contrecarrer la puissance d'Hitler. Mais enfin, on ne refera pas l'histoire, bien évidemment. Mais voilà, c'était un peu percutant. Je l'ai lu là encore cette semaine. Je me suis dit, tiens, c'est pas anodin. Oui, cette pandémie actuelle montre bien comment l'angoisse peut surprendre les peuples. Alors montera de la mer, cette fameuse mer qui représente les nations, les peuples et les langues, le même soupir. Quand donc y aura-t-il un homme capable d'en imposer? Un homme qui parvienne à mettre un terme à toutes ces choses, à cette violence, à ces injustices, qui proclamera enfin la paix et que nous pourrons vivre enfin en paix. On l'entend parfois ce discours. Alors nous pouvons prendre au sérieux les paroles de l'apôtre Paul qui écrit « Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs de la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. » Quand ils auront l'impression d'avoir trouvé une solution, et la solution, l'Antichrist va l'apporter avec toute la subtilité qu'il va mettre derrière, eh bien une ruine soudaine, bien sûr, viendra parce que les yeux s'ouvriront et là, ça fera mal. Il sera, dit cette bête et les faux prophètes en même temps, ils auront une apparence incroyable, cette bête qui est décrite, elle fait peur, et en même temps, elle a une parole d'agneau, dit Jean. C'est-à-dire qu'elle manipulera, mais en même temps, c'est la main de velours, la main de fer dans un gant de velours. Et on est un peu dans cette idée-là. Oui, paradoxalement, l'annonce et le désir de paix sera finalement un mensonge. L'incapacité de voir qu'un mensonge est un mensonge ne tient pas à un défaut de vision, non. Si le mensonge n'est pas vu comme un mensonge, c'est pour la simple raison qu'il est tout simplement cru, car il procure trop de sécurité, de réconfort, de pouvoir à celui qui y croit, pour que son caractère soit trompeur et donc démasqué. Le mensonge est subtil. Alors, je vais bientôt terminer. J'espère que vous avez encore quelques forces. Je voudrais faire deux remarques pour prolonger la réflexion. À Tunis, le 22 octobre 2020, lors de la 16e réunion des ministres des Affaires étrangères du fameux dialogue 5-5 dont j'ai parlé hier après-midi, Les participants ont, je cite, mis en relief la résolution 2532 de 2020, initiée par la Tunisie et la France, adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 1er juillet 2020, concernant la menace que constitue la pandémie du Covid-19 à la paix et à la sécurité internationale. Ils ont relevé l'importance cruciale qu'accorde cette résolution à la coopération et à la solidarité internationale pour que la communauté internationale puisse réussir à traiter cette crise mondiale sans précédent. Et une deuxième remarque, l'ONU a proclamé l'année 2021, je ne sais pas si vous l'avez lu ou entendu, année, je cite, internationale de la paix et de la confiance, je ne sais pas en qui et en quoi, hein, pour mobiliser les efforts de la communauté internationale afin de faire régner durablement la paix, la solidarité et l'harmonie, a décrété l'Assemblée générale ce jour-là. Résolution que nous pouvons trouver facilement. Dernière expression dans notre ville de Babylone, en une seule heure. Une seule heure. Et là, nous avons affaire à quelque chose qui semble être paradoxal. Cette ville qui semble impressionnante, qui est impressionnante, qui est peut-être même forte par son argent, par sa puissance, etc., eh bien, elle est détruite en une seule heure. On a le grand qui est détruit par le petit, ou petitement. Ça rappelle la statue de Daniel. Cette statue monobloc, hein, qui est bien sûr fragilisée avec le fer et l'argile, hein, on l'a vu hier, est détruite comment ? Par une petite pierre qui vient percuter la fragilité de la statue, qui est en fer et en argile au niveau des pieds. Hein. Et là, on a la même idée, en une seule heure. Alors quand on pense à Internet, on a l'impression que c'est quelque chose de puissant. Il est puissant parce qu'il crée des choses qui nous étonnent, bien sûr. Mais ô combien il est fragile. Pensez simplement à un virus informatique venant de quelque part derrière là-haut, hein, que Dieu lui-même envoie pour bloquer tous les systèmes. Les informaticiens peuvent travailler, comme dit le psaume 1, le Seigneur rit. Allez, débrouillez-vous maintenant. Trouvez-moi l'antivirus. Tout est bloqué. Ou bien une panne gigantesque d'électricité. Clac, plus rien. Tout est bloqué. D'ailleurs, Apocalypse 18, j'ai pas lu la suite du texte, mais il est dit au chapitre 18, bon, verset 21. Un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi, donc chez toi Babylone, les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. » Combien, on a parlé de la musique ce matin, hein, mais combien la musique dans le domaine économique aujourd'hui a un business important sur Internet. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. Il n'y a pas que les marchands, tous les artisans, tous les métiers qui sont légion maintenant sur Internet. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La meule représente la nourriture. Tout ce qui te fait et qui te produit de la nourriture ne pourra plus être donné. Et écoutez bien le verset qui suit. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Or, qu'est-ce qui fait tourner nos ordinateurs ? C'est la lumière, c'est-à-dire l'électricité, une lampe. Levez la lampe, il n'y a plus rien. Et puis, il y a encore un domaine dans lequel l'informatique peut être complètement annihilée, parce que le virus, à la limite, on peut trouver un antivirus. L'électricité, on va la remettre en route, on va trouver une parade, forcément. Mais il y a ce qu'on appelle les impulsions électromagnétiques, qui peuvent produire des choses catastrophiques. Elles sont dues aux éruptions solaires. Les satellites sont en première ligne. D'ailleurs, la NASA est très en souci de cela aussi et surveille quotidiennement, ou je veux dire, chaque heure, tout cela. Parce que lorsqu'il y a des éruptions solaires, eh bien, il se passe un effet magnétique qui fait que tout ce qui est électronique dans le secteur est grillé. C'est-à-dire, ce n'est pas. Oui, ce n'est pas.
Ne dis plus, frère, que. L'informatique est bloquée.
Oui.
Parce que tout s'est bloqué, mon écran est devenu noir. J'évite de prononcer ces mots.
Bien, alors nous sommes. Quelques-uns à terminer, c'est ça? Bon, ben je suis désolé, alors, hein, mais. Bon. Oui, donc les éruptions solaires, en fait, peuvent avoir des effets, mais cette fois. Et malheureusement, je vais encore employer le mot, c'est grillé. Ok, donc quand ça a brûlé, ça a brûlé. Il faut reconstruire tout. Hein. Malheur, il faut tout reconstruire. On ne remet pas en marche aussi facilement. Bien. Au niveau météo, d'ailleurs, ce sont ces fameuses auréoles, qui se voient dans certaines parties du monde. Bien, je vais terminer. Et je voudrais rappeler que ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que plus Internet va prendre de la place et plus le monde va se fragiliser, j'en suis convaincu. Et la fin tragique, terrible et surtout soudaine de Babylone, la grande ville, montre ce paradoxe que j'ai déjà essayé de montrer, ce grand, ce puissant, qui paraît intouchable, se brise en un instant. Il y a donc, derrière l'expression en une seule heure, rapidité et instabilité de la grande ville. Je voulais quand même, comme j'ai parlé d'un précédent au niveau historique avec l'Allemagne, je voudrais parler d'un précédent dans ce domaine-là, de rapidité, d'instabilité, de destruction. Je pense au World Trade Center en 2011. Que représentait ou qu'était ou qu'est-ce qu'il y avait dans les tours jumelles du World Trade Center? C'était l'économie des États-Unis d'Amérique et l'économie, on peut dire, beaucoup plus large, qui a été touché par les avions. Donc déjà, on est dans quelque chose d'assez intéressant. Et si vous retrouvez ce qui a été dit, ou en tout cas les rapports d'époque, vous lirez que les tours jumelles, les deux, se sont écroulées en une heure. Après l'impact du premier avion, une heure s'est écoulée avec les deux effondrements. Et là, je me dis, c'est un peu comme Hitler qu'on a pensait être un peu l'antichrist, mais qui en a montré quelque chose, mais c'est pas encore lui, bien sûr, mais c'était comme une petite maquette, entre guillemets, je m'excuse du terme, hein. Idem pour les tours jumelles, qui représentaient l'économie, tout comme Babylone et l'économie, et qui sont tombées en une heure. Mais ce sera cette fois planétaire, ce sera pas simplement dans un endroit précis. Alors il y a un texte qui m'interpelle, c'est le prophète Jérémie, qui nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu. » Et nous savons, et l'apôtre Pierre le dit très clairement, que le monde est préparé pour le feu. Le monde de Noé a été exterminé par l'eau, la fin sera faite par le feu. C'est un fait. C'est ce que dit l'Écriture. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de voir qu'on a peut-être deux moments de l'histoire différentes. À la fois, nous avons les larges murailles de Babylone qui correspondent à la ville de Nebuchadnezzar, que j'ai citée tout à l'heure. Mais ce qui m'interpelle, c'est de voir qu'il est question des peuples, qu'il est question des nations, et non pas des Babyloniens, qui auront travaillé en vain, qui se seront amassés des richesses en rien, puisque leurs murailles vont tomber. Mais il s'agira de quelque chose de beaucoup plus large. Il s'agit donc d'une Babylone, certes, mais pas de la même. Autant celle de Nebuchadnezzar est tombée, mais autant les peuples et les nations plus tard, sous le couvert d'une autre Babylone, seront aussi sous le feu, et le feu de Dieu lui-même. C'est un peu cette image, quand on est sur les sommets, que l'on voit les sommets, mais entre les sommets, il y a des vallées. Nous avons une première Babylone, Nebuchadnezzar, puis nous avons une deuxième Babylone, celle de Jean, qui pour moi représente cette globalisation et, à travers Internet, cette grande ville. Mais entre les deux, il y a ce qui s'est passé, il y a ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose, le même plan prophétique, si je puis dire, mais dans un autre moment, dans un autre temps. Alors je vais conclure. Lorsque les disciples se sont retrouvés avec Jésus ressuscité, avant que celui-ci ne remonte au ciel dans le livre des Actes des Apôtres, Luc rapporte cette question des disciples à Jésus. « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus a répondu « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. » Même si nous avons quand même essayé d'examiner les choses, tout ne sera pas expliqué. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Une réponse peut-être un peu difficile à entendre pour les disciples face à leurs légitimes interrogations sur la fin des temps, qui, pour eux, allaient les concerner. Comme le sont les nôtres aujourd'hui, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas apparaître? Est-ce que c'est maintenant que les choses vont arriver telles que nous les voyons? Car s'il est permis de s'interroger, de sonder les Écritures comme nous avons essayé de le faire ensemble, il faut se garder de nous perdre dans de vains discours et exposés, aussi pertinents puissent-ils être, et qui pourrait nous faire tomber dans l'orgueil. J'espère que ce ne sera pas le cas pour ce week-end, et que nous avons essayé simplement, devant le Seigneur et devant sa parole, de réfléchir. Mais la réponse de Jésus doit surtout focaliser notre attention sur le fait de ne jamais perdre de vue, et je reviens sur l'expression de ce matin, que quoi qu'il arrive, Jésus nous dit « Vous serez mes témoins ». Jésus dit à ses disciples « Vous serez mes témoins ». La raison d'être de la Pentecôte n'a jamais été de nous donner une puissance pour que nous puissions témoigner de notre connaissance théologique. Sa raison d'être est de nous donner une puissance pour que nous soyons en premier lieu témoins de Jésus-Christ. Et ça, c'est important, me semble-t-il. C'est pourquoi ce que nous faisons, n'est-ce pas, du temps à disposition, est beaucoup plus important que de nous demander à quel moment ce temps touchera à son terme, même si nous l'avons fait, mais je ne pense pas que nous ayons quand même perdu du temps. Rachetez le temps, dira l'apôtre Paul, car les jours sont mauvais. Et pour le racheter, c'est dans l'esprit d'être et de rester ces témoins de Christ. Ce que je disais ce matin, attention, n'ayez pas que la tête au ciel, Jésus vient, d'accord, mais ayez les pieds sur terre en étant ses témoins. Alors je termine par cette citation, deux citations, une de l'Écriture et une de quelqu'un. La citation de l'Écriture, c'est l'apôtre Jean qui nous la donne. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité et de la manière dont tu marches dans la vérité. Être témoin de Christ, c'est marcher dans la vérité. N'oublions jamais cela, quoi qu'il arrive. » Le réformateur Jean Hus, citation, a dit « Cherchez la vérité, écoutez la vérité, apprenez la vérité, aimez la vérité, défendez la vérité et mourrez pour la vérité. » Voilà, je veux terminer simplement sur cette citation-là, que le Seigneur nous renouvelle à travers elle. Je veux prier encore. Seigneur Jésus, quel privilège d'avoir pris ce temps encore et de nous avoir permis d'ouvrir ta parole. Nous souhaitons, Seigneur, rester humbles devant ces textes qui nous dépassent bien souvent et qui, Seigneur, nous rappellent combien nous sommes simplement tes créatures. Tu es au ciel, nous sommes sur la terre et tu fais ce que tu veux. Mais Seigneur, tu nous as révélé des choses, en tout cas tu as inspiré ces hommes à écrire ce que nous avons essayé de comprendre, d'analyser. Seigneur, viens au secours de nos pensées, viens au secours de notre foi peut-être encore. Éclaire-nous si c'est ta volonté dans ta grâce. Et que personne ne se prive de cette grâce qui encore aujourd'hui est pour tous. Oui, viens bientôt, Seigneur Jésus, nous t'attendons, que ton nom soit loué Amen. Amen.